fréquence protestante. Chant contre chant.
Bonjour et bienvenue à tous. Profil et Chancon et l'équipe de Chant contre Chant sont heureux de vous retrouver à l'occasion de cette rentrée qui tient davantage d'une sortie d'hibernation que d'une reprise après repos estival. En tout cas, déconfinés, masqués et les mains puant le gel hydroélectrique, nous sommes tous les quatre présents autour de ce micro pour cette émission qui sera présentée par moi-même et j'aurai à côté de moi Marie-Jeanne Campana. Bonjour Marie-Jeanne.
Bonjour tout le monde.
Françoise Lowe, bonjour Françoise.
Bonjour.
Et Jean Fikowski, bonjour Jean.
Salut tout le monde.
Alors, on connaît les difficultés dans lesquelles se débattent les salles aujourd'hui et combien nombre d'entre elles sont au bord du sinistre. Nous avons le sentiment d'être là pour vous dire, plus que jamais, allez au cinéma.
Oui.
Et pour vous proposer des films qui vous donnent envie de le faire. Nous avons aujourd'hui, comme d'habitude, retenu trois films dans un flux de rentrée assez maigrelé. Nous commençons avec un film très particulier, tant par son thème que par son rythme, dans un jardin qu'on dirait éternel du japonais Tatsushi Omori. Nous continuerons avec Police, film dont le titre donne déjà le thème et qui a été réalisé par Anne Fontaine. Et c'est avec Les choses qu'on dit, Les choses qu'on fait, le dernier film de ce merveilleux peintre du sentiment amoureux qu'est Emmanuel Mouret, que nous conclurons cette partie de chant contre chant consacrée au débat. Ensuite, bien entendu, il y aura les coups de cœur habituels. Et nous allons commencer avec ce film très particulier qui s'appelle Dans un jardin qu'on dirait éternel de Tatsushi Omori. Tatsushi Omori est né à Tokyo, il y a 50 ans. Il a grandi dans la marmite du spectacle, son père étant chorégraphe et danseur de buto, son frère acteur. Après le lycée, il a fait des études de sociologie, mais très vite il retrouve son milieu d'origine en devenant acteur de cinéma, puis assistant réalisateur avant de tourner lui-même. Il a déjà réalisé 15 films, Dans un jardin qu'on tirait éternel étant le premier à être projeté en France. Alors son film, il est inspiré assez rapidement du livre « La cérémonie du thé » de Norito Morishita, qui raconte l'histoire de deux jeunes filles, Noriko et Michiko, qui décident de se former à la pratique de l'art très japonais du thé. Pratique qui leur sera enseignée par un maître de cette discipline, Madame Takeda, interprétée de façon extraordinaire par la grande Keiki Kirin, qui nous a quittés malheureusement depuis. Pratique qui, pour Noriko au moins, va durer toute son existence. A priori, rien de très accrocheur dans un tel sujet pour un spectateur européen. Et pourtant, tout au long de ce film, on ne cesse d'être fasciné. Marie-Jeanne.
Oui, car ce film ne se résume pas à un documentaire sur la cérémonie du thé. Cette cérémonie peut en effet surprendre notre regard occidental. Il s'agit, en suivant une série de gestes parfaits, d'une extrême précision, de préparer du thé à partir de matcha, qui est une variété particulière de thé vert japonais en poudre. Mais le premier étonnement passé, on comprend rapidement comment la répétition des choses du quotidien, les plus simples comme les plus complexes, nous aide à voir la vie avec un autre regard et à faire un long chemin intérieur. C'est d'ailleurs le cas pour une des deux jeunes filles, Noriko, que l'on voit se transformer au fil des années et trouver un sens à sa vie. Et je dois dire qu'on se laisse progressivement entraîner dans une douceur, un apaisement profond, grâce à l'harmonie, la délicatesse, la beauté qui se dégage de ce film. C'est véritablement une ode au temps présent, au temps qui passe, aux saisons, à la douceur de vivre, à la lenteur aussi.
Oui, à t'entendre parler de ce film, on se demande un peu dans quelle catégorie tu le classes.
Ah, c'est difficile, mais je dirais que c'est un film poème, hors du temps, comme on en voit trop peu au cinéma, et qui est d'une expérience émotionnelle tout à fait extraordinaire qui sollicite tous nos sens. Les images, qu'elles soient d'intérieur ou d'extérieur, sont d'une très grande beauté. Mais surtout, la maison de la maîtresse de thé, la professeure Takeda, où tout est simplicité, raffinement, élégance. Le son aussi, les sons, le silence et surtout les bruitages qui sont d'une très grande subtilité. On entend le frôlement des pas sur le tatami, le froissement d'une serviette, le bruit de la pluie sur le jardin, l'eau qui boue et ou qui coule dans les tasses. C'est extraordinaire. Et puis la douce lumière du printemps, de l'automne ou de l'hiver sont un véritable enchantement. Personnellement, je dois dire qu'après l'avoir vu, j'ai ressenti une très grande sérénité intérieure et presque l'impression d'être transformée.
Mais est-ce que ce film ne reste pas hors sol un peu ?
D'une certaine manière, mais prosaïquement, ce film évoque aussi des problèmes très actuels. La difficulté des jeunes à trouver une place dans la société japonaise, qui est fondée, on le sait, essentiellement sur l'excellence, et surtout, la situation des femmes, qui, lorsqu'elles n'entrent pas dans le système, n'ont que le choix entre un travail peu valorisant ou se mettre au service de leur famille, comme le fait la cousine de Morito. Un film vraiment magnifique.
Oui, Jean, est-ce que toi aussi tu as ressenti ce film comme magnifique et l'impression d'être transformé ?
Écoute, je ne peux pas dire que j'ai pas aimé ce film, et je trouve que c'est formidable, un film où tu peux piquer un petit roupillon pendant un quart d'heure, tu te réveilles et tu as l'impression de rien, de ne pas avoir dormi, parce que ça continue absolument comme avant.
Mais c'est un peu le sens même du film, le temps est immobile.
Oui, mais c'est très agréable. Enfin, ça me rappelle un souvenir d'enfance, quand j'étais môme avec ma sœur, mes parents, le dimanche, nous amenait chez la tante Rose. C'était une vieille dame qui était très, très gentille, qui nous préparait un très bon goûter. Alors, on mangeait très bien. Mais qu'est-ce qu'on s'emmerdait ! Oh là là !
Je trouve la métaphore très bienvenue.
Alors là, tu veux dire que dans le film, c'est pareil.
Entre deux roupillons, je me suis bien embêté. Mais c'était pas désagréable à regarder quand même, soit dit en passant.
Et toi, François, est-ce que tu t'es bien emmerdé en dormant ?
Ce mot est tellement grossier que je ne le comprends pas. En fait, je me suis installée avec ravissement dans la lenteur du film, Jean, tu vois, avec ravissement. Et en effet, je me suis assoupie de temps en temps et j'en ai pas perdu une miette. Moi, j'ai trouvé que c'était un film. Alors, Marie-Jeanne, toi, tu dis un film poème. C'est vrai, je le ressens comme ça. Moi, j'appellerais ça un film de méditation, peut-être. C'est excessivement rare. Et le genre n'existe pas dans les livres. Hein. Moi, j'ai aimé l'idée que ce film repose sur un cérémonial. Ça m'a renvoyé à Saint-Exupéry, l'un de mes grands auteurs, qui utilise beaucoup ce terme de cérémonial comme ce qui permettrait d'accéder à une autre dimension de l'être. Et c'est ce que j'ai ressenti dans ce film. Également traduit, je pense, par le regard lumineux et bienveillant de Madame Takeda,
qui est extraordinaire.
C'est extraordinaire, Kirin. Et puis, je me suis demandé, c'est quand même un cérémonial qui nous est totalement étranger, enfin, qui m'est totalement étranger. Oui. Donc, je me suis penchée sur ce cérémonial en me disant qu'il fallait que j'arrive à moi aussi à trouver du sens. Et il m'a semblé qu'en apprenant à infuser le thé, je me suis dit qu'on doit apprendre aussi à infuser sa vie pour y trouver du goût. Et que c'est drôlement long, drôlement compliqué.
Si on est obligé de passer par la cérémonie du thé pour ça...
Mais je pense quelquefois.
Il y a plusieurs fois dans la maison du Seigneur. Et la méditation en est une, mais il y en a d'autres. Et
Ça peut être un chemin.
Moi, j'ai trouvé que c'était un film comme toi, qui fait du bien, qui apaise.
Oui.
J'ai adoré ce film.
On ne sort pas énervé, c'est sûr.
Non.
J'ai aussi également été assez fasciné par ce film aussi, que j'ai beaucoup aimé, même si au début, je me suis quand même pas mal ennuyé pour ne pas
prendre le mot plus grossier. C'est surprenant au début, c'est vrai.
En particulier lors de la cérémonie qui consiste en...
Le pliage
des serviettes, ça n'en finit pas.
À plier et déplier, d'ailleurs.
Oui. Ceci dit, finalement, j'ai été pris par cette lenteur, cette sacralisation du geste et de l'objet, cette façon de reproduire à l'identique un rite qui remonte à l'origine et qui donne l'impression que le temps, c'est à la fois l'éternité et l'instant présent. Et ça, j'ai trouvé très, très beau. Oui.
En fait, c'est un temps cyclique parce qu'il y a le retour des saisons qui fait que c'est apaisant, ça va revenir. Oui. C'est pas le temps qui file droit comme une flèche dans le gouffre. Ça revient, c'est apaisant.
Ça, pour être apaisant, c'est apaisant. Oui.
Mais pour une fois, un point où je t'ai pas suivi, c'est quand tu dis que la jeune Noriko, ça donne un sens à sa vie. Moi, il m'a semblé au contraire, et c'est un petit peu pour moi l'ambiguïté du film qui va gêner, que cette Noriko, Elle est aussi bien sa vie sociale qu'affective sont ratées. Si bien qu'on a l'impression, on a l'impression que la série politique correspond pour elle à une espèce de refuge parce que le monde réel est trop dur.
Oui. Non, mais je trouve que non, elle est beaucoup mieux dans sa peau qu'au début où elle se cherchait et on a l'impression que là elle a résolu beaucoup de problèmes. Oui, elle est seule. Enfin, je veux dire, ça n'a pas l'air de lui poser les problèmes que ça lui posait au début.
C'est un mystère. Oui.
C'est un mystère
pour moi.
Oui. C'est quand même une fille qui va rester vieille fille toute sa vie, qui va.
C'est un mystère.
On la voit quand même 40 ans plus tard, j'ai pas trop compris à l'époque.
Non, 20 ans plus tard.
24 ans. Elle a 24 ans après.
À la fin du film, quel âge a-t-elle?
44.
Non, c'est tout ça.
Alors, j'ai lu quelque part qu'elle est restée 24 ans chez Madame Tadeka et qu'elle avait 20 ans en arrivant.
Oui, c'est une vingtaine d'années.
Voilà.
Tout à fait. Et je dois ajouter quand même que Kirin Kiki, c'est son dernier magnifique rôle et qu'elle est morte avant d'avoir vu le film, quelques jours avant la sortie du film.
C'est vrai que c'est une excellente
actrice. C'est triste pour elle.
On la voit toujours quand elle préparait les beignets fourrés dans le film de Naomi Kawase. Et puis la grand-mère aussi de Koreeda, comment ça s'appelle, une affaire de famille.
Une affaire de famille, grand-mère.
C'est la grand-mère le film lui doit énormément.
C'était surtout les beignets quand même.
Les beignets, oui.
Ouais, elle était malicieuse.
Voilà bien, nous allons passer au film suivant. Nous allons maintenant parler du dernier film d'Anne Fontaine, Police. Anne Fontaine, c'est une cinéaste qui avait montré dès 1991 avec Nettoyage à sec des qualités d'acide qui perforent les vernis sociaux. Avec des films comme Mange, tuer mon père et Perfect Mothers, elle s'en prenait à l'intergénérationnel. Et c'est encore dans un univers clos sur lui-même, celui d'un couvent, qu'elle s'était introduite avec Les Innocentes en 2015.
C'était beau ce film.
Ici, c'est dans le monde clos, plus ou moins de la police, que l'on se retrouve. Avec trois personnages principaux faisant équipe. Virginie, jouée par Virginie Efira, une femme mal mariée qui vient d'apprendre qu'elle est enceinte de son collègue et amant Aristide, Omar Sy, un homme seul dont les attaches se trouvent en Afrique. Quant au dernier du trio, Eric, Grégory Gadebois, il vit avec une femme insultante et humiliante. C'est donc un trio assez cabossé par la vie qui va se trouver chargé d'accompagner à Roissy pour renvoyer à sa frontière un réfugié tadjik. Mais voilà qu'en cours de transport, Virginie découvre que renvoyer cet homme chez lui, c'est le condamner à mort. Alors, film policier ou film au problème moral? Françoise.
Question piège, réponse piège. Je dirais que c'est un film avec des policiers confronté à un problème moral.
Tu t'en sors bien.
Ou encore, c'est un film, je dirais que c'est un film sur l'envers des policiers, parce que vous avez vu sur l'écran les premières images du film, le mot police apparaît en majuscule, immense, mais écrit à l'envers. Alors on lit E-C-I-L-O-P. Parce que Anne Fontaine nous montre, je crois, ce qui est masqué par l'uniforme. En tout cas, c'est son intention, semble-t-il. Elle aborde en fait la complexité de l'être, la nuit de l'âme, et d'ailleurs, le film se déroule pendant la nuit. C'est une nuit qui est filmée par le talentueux Yves Angelo. La nuit des rues parisiennes, ponctuée de feux rouges, la nuit sinistre des commissariats de police, éclairée au néon. Ajoutez un vieux kangou qui tient lieu de véhicule de police, avec ses portières à glissaire. Et c'est dans cet espace sombre, clos, étouffant, que se déroule une tragédie, la tragédie du réfugié menotté, encadré de trois policiers et reconduit de force à la frontière. C'est une histoire, somme toute, tristement banale, avec des policiers.
Et tu disais que ces policiers étaient confrontés à un problème moral.
Oui, j'y viens. Les trois policiers nous sont montrés, me semble-t-il, dans leur dimension humaine. Deux hommes et une femme qui se trimballent aussi bien qu'ils le peuvent, une vie privée, une vie plutôt cabossée, comme tu le disais, Jean, et comme tout un chacun me direz-vous. Mais les policiers, eux, n'ont pas le droit aux états d'âme. Ils obéissent aux ordres, point. Sauf que cette nuit-là, serrés dans leur kangou à côté de leurs réfugiés tadjiks menottés, qu'ils doivent déposer à Roissy, ils se voient confrontés à un cas de conscience. Au Tadjikistan, en effet, ils le savent, cet homme sera immédiatement arrêté et mis à mort. Eric rappelle à ses collègues que le devoir exige le respect de la loi et l'obéissance aux ordres. Oui, chef. Mais pour Virginie et Aristide, la simple humanité amènerait à désobéir aux ordres. Et ça s'appelle désobéissance civile pour raison de conscience. Ça existe, non ? Alors la discussion s'emballe et s'enlise dans une impasse, à mes yeux. À mes yeux, Anne Fontaine a réussi à rendre ces trois policiers crédibles et touchants. Un peu comme Simenon, elle cherche à débusquer l'humain qui derrière la fonction. Elle met en lumière la fragilité, la vulnérabilité de l'être, et moi je trouve qu'elle y parvient.
Tu dis que les trois policiers sont crédibles, et pourtant certains épisodes, la séquence dans le bois par exemple, puis celle de l'avion, peuvent quand même sembler hautement improbables.
Hein. Oui, mais crédible ne signifie pas forcément conforme à la réalité. Ce film n'est pas un documentaire, n'est-ce pas ? Et quand les policiers démenottent le réfugié, ouvrent les portes du Kangoo et s'éloignent, il y a un vrai suspense. Et nous, les spectateurs, on souhaite tous que le Tadjik en profite pour s'enfuir. De même quand Virginie rejoint à bout de souffle le réfugié dans l'avion, même espoir. Et Anne Fontaine a filmé là, à mon avis, la réalité du désir du spectateur. Pour conclure, je dirais que ce film est un film sensible, subtil, humain, et à ce titre, je lui rends hommage.
Je vois l'attitude de Marie-Jeanne qu'elle n'est pas tout à fait d'accord.
Non, je ne partage pas du tout ton point de vue, Françoise, et je suis désolée, mais je dirais, sur ce point, certes, il y a un beau jeu d'acteurs, mais si j'étais méchante, je dirais que le film se limite à cela. Alors, dans la première partie, Anne Fontaine veut nous montrer le point de vue de tous les protagonistes, et elle refait les scènes, les mêmes scènes, sous un autre angle, mais alors, écoutez, comme si on n'avait pas compris, c'est lourd.
Mais non,
c'est lourd, c'est répétitif, c'est ennuyeux. Et contrairement à l'effet escompté, je trouve que ça brouille un peu le message. Quant à l'état d'âme des policiers, écoute, excuse-moi, mais c'est vraiment cliché. Alors, dans la deuxième partie, alors là, on nage dans l'invraisemblance totale. Des ficelles de scénario pour arriver à cette situation. Ce n'est pas normalement le boulot des policiers, la reconduite aux frontières. Alors, des scènes dans la vertu...
Il a conduit à l'aéroport.
À l'aéroport, mais... Alors, des scènes dans la voiture pour essayer de faire échapper ce réfugié qui ne veut absolument pas s'échapper. Alors, la scène de l'avion, vraiment trop, c'est trop. Non, vraiment, je sais pas.
Moi, je vais mettre tout le monde d'accord parce que je suis d'accord avec les deux dames là qui viennent de parler. Parce que en sortant du film, j'étais d'accord avec Françoise Lou. C'est-à-dire que je me suis pas ennuyé, c'était sympa, j'étais content. Et puis en y réfléchissant, en sortant, après, j'étais plutôt d'accord avec Marie-Jeanne. Parce que j'ai trouvé qu'effectivement, il y avait trop d'invraisemblances quand même. Ces trois flics, il y en a une qui va avorter, il y en a l'autre qui se saoule la gueule, là, le plus vieux, Eric, et puis et Omar Sy qui passe une demi-heure avant de se laver, avant d'entrer dans chez lui. J'espère que les flics français ne sont pas comme ça, parce que la police française serait quand même bien triste. Bon, et la deuxième partie...
Mais comme il est dit, le mot police...
Oui, est à l'envers.
La
police est à l'envers, on est d'accord. Et dans la deuxième partie, il y a trop d'invraisemblances. Il y a vraiment trop d'invraisemblances. C'est marrant parce que je ne l'ai pas perçu à la première... quand j'ai vu le film, je me suis laissé... Embrigué, puis en y arrivant, je me dis, mais enfin quand même, elle marche sur la tête, la pauvre Fontaine, dont j'ai bu l'eau quand même avec beaucoup de plaisir.
j'ai bien aimé ce film, malgré ses invraisemblances, j'ai du plaisir à la façon dont elle tourne. Je reconnais que c'est mal foutu, que déjà le fait d'avoir... Il y a deux sujets, il y a le drame personnel de ces policiers, il y a l'emmènement à la frontière du Tadjik, tout ça, c'est pas très raccord. Hein. Et je reconnais qu'il y a beaucoup d'invraisemblances, quand tu as souligné, aussi bien par Marie-Jeanne que par Jean, dans le comportement des uns et des autres. Ceci dit, je dois dire que personnellement, une chose que j'ai justement aimé dans ce film, c'est son état d'inachèvement, d'incomplétude, d'inaccomplissement. J'ai eu le sentiment qu'Anne Fontaine parfois se focalisait sur certaines scènes très fortes, des moments forts, comme justement la scène du kangou, la scène à l'avion, et comme si c'était, elle se contentait d'en garder l'esprit, elle ne les développait pas pour laisser aux spectateurs la liberté de broder un peu autour de ça. Et alors qu'il y a tellement de réalisateurs qui sont passés à surligner les choses, je trouve elle aux spectateurs une espèce de grande liberté. C'est un petit peu l'impression que son film, c'est un petit peu comme ces paysages où il y a une brume immense, puis une déchirure de brume qui laisse entrevoir et deviner le paysage derrière, et ça se referme.
Oui, mais dans la première partie, elle surligne, écoute, à refaire les mêmes, même si elle ajoute quelques éléments. On aurait très bien compris, avec un champ contre champ, l'état d'esprit des deux protagonistes. Enfin, moi, j'ai été très désarçonnée par ces... Je me suis dit, mais enfin, bon, il y a une erreur de bobine, elle rembobine, qu'est-ce qui se passe? Et après, j'ai compris que c'était... Enfin, bon, voilà, c'est...
Non, ça cesse voir quand même agréablement. Il ne faut pas râler trop.
Oh ben, ouais. On est là pour ça.
On est là pour ça, t'as raison.
Oui, et puis je trouve qu'il y a quand même des scènes qui sont très belles.
Oui.
Je suis d'accord avec toi. Elle souligne peut-être un peu trop dans cette façon de présenter la même scène.
Oui.
Mais la scène c'est Malo Eric que je trouve très intéressant. C'est le troisième personnage.
Gadebois est très bon.
Qui est remarquable. Oui,
la façon de caresser la tête du cheval à la sortie de l'incendie.
Mais vous voyez, moi j'ai vu dans ce film aussi quelque chose qui m'a plu. C'est qu'il va à l'encontre du flic bashing qui envahit les réseaux sociaux, avec tout le monde déteste la police, avec flic suicidez-vous. Je me dis que c'est bien que quelqu'un dise, ben moi je ne rejoins pas ce courant de pensée, si on peut appeler ça de la pensée d'ailleurs.
Oui. Bien, ben je crois qu'on va rester là sur ce film. On va observer une petite pause musicale avant de passer à autre chose. Fréquence protestante, nous allons reprendre avec Les choses qu'on dit, Les choses qu'on fait, le dernier film d'Emmanuel Mouret, avant tout peintre raffiné et subtil du sentiment dans la ligne directe de Romer et de Marivaux. On l'avait déjà apprécié en 2018 avec Mademoiselle de Jonquière et un peu plus tôt pour ne citer que ses principaux opus avec Caprice en 2015, avec L'art des mers en 2011, avec Un baiser s'il vous plaît en 2007... Alors, dans son dernier film dont nous parlons aujourd'hui, tout commence avec l'arrivée d'un écrivain en herbe, à peine sorti d'une liaison tumultueuse, Maxime, joué par Neil Schneider. Maxime, donc, qui arrive dans la superbe maison du Luberon, où l'a invité son cousin François, Vincent Mécaigne. Mais celui-ci a été obligé de s'absenter quelques jours, et Maxime ne rencontre que sa compagne Daphné, Camilla Jordan. Pour meubler ce face-à-face inattendu, Daphné et Maxime vont se confier l'un à l'autre et se raconter leurs aventures amoureuses dans une suite de récits enchâssés, rythmés par les rencontres et les affinités. Jean.
Alors, tu as bien commencé le récit, et après il s'ensuit quelque chose d'assez compliqué, entremêlé d'une série flashback.
Oui, c'est compliqué.
L'histoire de Maxime commence avec celle de Victoire, qui part au Japon retrouver son mari et qui lui présente auparavant son amie Sandra. Maxime est immédiatement séduit, mais avant même qu'il ait déclaré son amour, son ami Gaspard le prend de vitesse et se met en ménage avec Sandra. Maxime emménage quand même avec le couple. Et quand Gaspard s'en va avec une autre, Maxime prend sa place dans le lit de Sandra. Mais Gaspard revient et retrouve Sandra. D'où le Maxime qui part à la campagne.
Et Daphné, elle aussi son histoire à raconter ?
Oui, bien sûr. Daphné confie à Maxime qu'elle a été l'amoureuse éconduite d'un réalisateur de cinéma et qu'elle est devenue, beaucoup par hasard et sans doute un peu par dépit, la maîtresse de François, qui était alors mariée à Louise. François divorce et forme désormais avec Daphné un couple pour le solide. D'ailleurs, Daphné est enceinte de 3 mois. Après que Maxime et Daphné se sont racontés leur vie, Il commence à se nouer entre eux une relation particulière dont on laissera le spectateur découvrir.
C'est un sacré imbroglio, hein. Mais est-ce qu'on ne risque pas de perdre le fil là-dedans ?
Oui, c'est vrai, toutes ces trajectoires s'entremêlent et tout cela est bien complexe. Mais sans bruit ni fureur, comme on pourrait le voir dans le cinéma américain. Dans ce tourbillon de sentiments, j'ai pensé à La Ronde, le beau film de Max Ophüls.
Oui.
Mais nous sommes ici dans la création d'Emmanuel Mouret, qui est un réalisateur et humaniste pétri du XVIIIe siècle, de Diderot, de Marivaux, tout en étant un admirateur de Romère et Truffaut. Dans ce film, la parole est fondamentale. Une parole peut faire plus de mal qu'un couteau, observe Emmanuel Mouret. Le langage est précis, classique, pas spécialement moderne et parfaitement naturel. L'amour, bien sûr, est omniprésent. L'amour qu'on dit et aussi l'amour qu'on fait, d'où le titre du film. Il est intéressant de relever certains propos des personnages. Je cite « Je désire le désir de l'autre. En amour, quelle est la règle ? Il y a l'amour de propriétaire et l'amour désintéressé. L'amour implique le désir, mais le désir n'implique pas forcément l'amour. Pourquoi vouloir résister à son désir quand toute la littérature et tout le cinéma nous disent que c'est presque impossible ? Mouret nous pilote avec brio et poésie dans le labyrinthe du jeu de l'amour et du hasard, qu'il construit avec délectation pour nous, sans jamais la moindre vulgarité, mais toujours avec cette légèreté et ce marivaudage qui font tout le charme du film.
Françoise, est-ce que toi aussi tu t'es aventurée avec délectation dans ce labyrinthe du jeu de l'amour et du hasard ?
Alors, délectation, c'est le mot qui me convient. Délectation des yeux, délectation des oreilles. Et pourquoi les oreilles ? Eh bien, parce que c'est un film à entendre et à écouter avec ravissement. Autant les dialogues d'ailleurs que la musique. Mouret filme du dialogue. Et la parole chez Mouret, elle est cinématographique. Pourquoi ? Parce que c'est une parole vivante, incarnée par la voix de chacun des acteurs, donc unique dans sa résonance. Et d'un bout à l'autre du film, la langue est belle. Elle est portée à son apogée par un Emmanuel Mouret qui se délecte des subtilités de la langue française. C'est une rareté, il faut le dire, dans le cinéma d'aujourd'hui.
Je voudrais ajouter quelque chose quand même, parce que ce film n'est pas qu'un film de paroles, c'est aussi un film d'images. Et Mouret excelle dans les images. Par exemple, les conversations entre deux personnages ne sont pas filmées comme on le fait généralement en champ contre champ, mais en plan séquence, avec en arrière-plan les magnifiques paysages de Provence, la nature luxuriante, un vieux pont romain ou un château médiéval dans la brume. Et la musique aussi joue un rôle important, car le réalisateur et son monteur, qui est toujours le même, ont convoqué pour le film Chopin, Debussy et Haydn. Et même à remarquer la scène finale, dans laquelle on entend seulement le piano mélancolique d'Éric Satie, qui se substitue à toutes les paroles. Et ça, c'est vraiment très beau.
C'est un cadeau qu'il nous fait.
C'est un vrai cadeau.
C'est un cadeau. Je trouve que la musique du film, c'est un cadeau. Un cadeau pour l'oreille du mélomane. Tous les compositeurs que tu cites, en effet, Satie à la fin, après avoir entendu de la musique romantique, la musique baroque. D'ailleurs, Mouret a dit quelque chose que j'ai trouvé très beau. Il a dit « Les notes deviennent une voix off sentimentale.
Mmh, » C'est très joli, oui.
Hein,
c'est très
les juste, notes oui. deviennent une voix off sentimentale. Et je trouve que vraiment, il a réussi à créer comme un écrin musical pour y placer, y loger toute la guirlande des sentiments amoureux. De ces personnages. C'est un bonheur, ce film, un bonheur.
Ah, je suis tout à fait d'accord avec vous. Vous avez dit
l'essentiel.
C'est un bonheur magnifique, c'est un plaisir de l'esprit. Cette langue très littéraire, très, très châtiée, est vraiment magnifique. Ce marivaudage charmant, ce chassé-croisé amoureux, dans lequel on se retrouve d'ailleurs. Je ne suis pas tout à fait d'accord en disant que c'est compliqué. Moi, j'ai très bien...
On suit assez bien quand même.
Parce que c'est hors temps.
Ce chassé...
C'est hors temps. Oui, c'est le sentiment amoureux de Marivaux aujourd'hui.
Mais oui, tout ça ponctué par Mozart, Chopin, Satie, Debussy, c'est un vrai cadeau. Et il y a également de longues scènes dialoguées qui font d'ailleurs penser à Woody Allen.
Oui, absolument. On n'a pas cité Woody Allen, mais il faut le citer.
Oui, il faut le citer. C'est magnifique. Oui. Vraiment, allez voir ce film.
Je ne vais pas reprendre toutes vos louanges, parce que je les partage. Mais j'ajouterai un petit regard un peu particulier là-dessus. Je trouve qu'à une époque où tous les films français sont presque voués à la comédie ou au film sociétal, Émile Mouret avoue carrément, s'affirme carrément pour ce qu'il est. Il fait un film qui est une bulle parfaite et qui est presque, il me semble, presque une chambre expérimentale et presque aseptisée, d'où il avait évacué tous les virus du monde, la politique, la situation sociale, les problèmes de santé, les difficultés de travail.
D'accord, j'adore.
Pour utiliser une métaphore gastronomique, son film est un peu un restaurant 3 étoiles où tout est parfait. La carte, la nourriture, les vins, la salle, les températures, le service. Mais c'est une bulle. Mmh. Et je trouve que ce qu'il nous fait là, Emmanuel Mouret, c'est un monde et pas un monde en voie de disparition. Ou même complètement disparu. Et que, ne serait-ce déjà que par ses choix musicaux, il échappe complètement à toute contemporanéité. Et voilà. Je crois quand même qu'il faut dire que c'est presque un film de patrimoine. Voilà.
C'est du hors temps.
Oui, et moi, ce que j'aime beaucoup, c'est que Mouret, jusqu'à présent, ses films, franchement, mis à part les deux derniers, les autres, où il était le personnage principal. Mmh. Et là, il s'est effacé devant ses autres personnages. Et il a vraiment bien fait. Mmh. Parce que c'était pas très bon avant, quand même. Donc, c'est formidable.
Mais on le retrouve dans le personnage de Maxime.
Dans le personnage de Maxime. Absolument. Maxime, c'est lui.
On y pense tout le temps.
Et puis, là, on a parlé un peu des qualités propres au film dans le détail, presque. Mais il y a un truc que je remarque, c'est l'ensemble de ce film. C'est un film choral. Et je trouve que la façon dont il fait fonctionner tous ces personnages comme une espèce de constellation, où les étoiles sont groupées par 3. Et elles s'allument les unes après les autres. Ah ouais. Et une espèce de furie du désir qui passe de l'une à l'autre. Et qui, c'est absolument remarquable.
Ouais, c'est jusqu'à cette dernière scène, quand même très mélancolique, avec ce chapeau croisé un petit peu dans les sapins de Noël, avec à la fois la nostalgie et puis bon, le retour à la normalité.
Et c'est une scène qui est complètement en dehors. À part du film, puisqu'il n'y a pas de dialogue, c'est ça. Alors que dans tout le film, il y a beaucoup de dialogue. Et là, il n'y a pas de dialogue. Ouais. Et c'est triste parce que finalement, ces deux êtres sont malheureux quand même à la fin.
Quelque chose d'un peu méchant pour le film. Mais finalement, cette dernière scène semble dire que mon Dieu, les voilà arrivés, retombés dans la vie normale avec la femme enceinte, le bébé qui va arriver. Et ce qu'on regrette, c'est ce qui s'est passé avant.
Oui, bien sûr.
Oui, non, sans regret, parce que c'est pour comment elle s'appelle, Camille, hein, c'est ça, l'héroïne.
Daphné.
C'est pour Daphné l'image de ce qu'elle aurait été avec Maxime.
Oui, absolument.
Et là, après, non, on dirait qu'elle n'en veut pas.
Ça avait pensé au Parapluie de Cherbourg aussi, la fin qui est si triste.
Oui, tout à fait.
Qui est si triste dans la station-service où ils se retrouvent tous les deux. Oui. C'est déchirant. Et là aussi, c'est déchirant.
Oui.
Mais oui, donc un des meilleurs films à voir actuellement.
Absolument.
Nous allons passer maintenant au coup de cœur. Je crois que Françoise, tu veux nous parler d'un film, d'un revenant, si je puis dire.
De Werner Herzog. Alors, Family Romance. Family Romance est un cadeau que nous fait Werner Herzog, qui est donc le grand maître du cinéma allemand des années 70. Je pense que tout le monde se souvient de Aguirre, la colère de Dieu, Nosferatu, Fantôme de la nuit, Fitzcarraldo. Alors, ce jeune homme de 78 ans nous livre aujourd'hui son dernier opus, Family Romance. C'est l'histoire d'un phénomène de société au Japon, à savoir le recours à des agences de location de proches. Ishiyoshi y joue son propre rôle, il est le patron de cette entreprise qui emploie environ 800 acteurs et dont le travail consiste à interpréter sur commande le rôle d'un proche, absent, disparu, voire inventé. Mais ne nous y trompons pas, ce film qui s'enracine dans une réalité sociale n'est pas un documentaire. Herzog, le visionnaire, nous entraîne dans une fiction à la fois jubilatoire et glaçante, grinçante, réjouissante. C'est dans ce fin travail d'équilibriste sur la frontière entre la réalité et la fiction que réside la réussite indiscutable de ce film. Le premier plan, c'est un homme perdu dans la foule de Tokyo, qui a rendez-vous avec sa fille, Mahiro, 12 ans. Sauf qu'il n'est pas son père, mais un comédien. Ishii et Yushii, justement, loués par la mère pour jouer le père absent. On voit l'homme et l'enfant se promener tout doucement sous les cerisiers en fleurs, et c'est la romance. Et Mairo va s'attacher à celui qu'elle prend pour son père retrouvé. Et là, le trouble envahit la scène, car, oui, c'est la règle, les comédiens sont là pour pallier les manques, pour offrir l'illusion du bonheur. Vérité et mensonge, imaginaire et réalité se fondent et se confondent dans une mise en abîme vertigineuse. Ishii endosse plusieurs rôles tout au long du film, drôle parfois, mais pas toujours. En effet, le point culminant du film est atteint quand Ishii se rend dans une entreprise de pompes funèbres. Et il demande à essayer un cercueil. Serait-ce son prochain contrat ? Je ne dirai rien. Mais peu après, nous comprenons le tragique que vivent ces étranges comédiens, interdits de sentiments personnels, payés pour jouer un rôle et priés de ne jamais franchir cette frontière. Mais pris de vertige parfois, et si ma propre famille avait été louée à mon insu, murmure Ishii. Personne ne sait. Moi, je vous le dis, c'est un film à ne pas manquer.
Oui, mais Françoise, moi, je suis ravi que tu choisisses de présenter ce film, parce que moi, j'ai adoré ce film. Pour moi, sur les 7 films qu'on présente aujourd'hui, c'est celui qui m'a le plus marqué. Je dois dire qu'il n'est pas aussi bien réussi que celui de Mouret, c'est pas comparable. Mais alors que Mouret m'apporte strictement rien, parce que tout ce que me dit Mouret ne me surprend pas, là, c'est vraiment l'inconnu que j'ai découvert grâce à ce film. Bon, on va passer au film suivant. Jean, tu voulais présenter toi, La Daronne.
Oui, je voulais présenter La Daronne. Alors, La Daronne, c'est le 8e film écrit par filmé par Jean-Paul Salomé. Et ce film a obtenu de nombreux prix au festival du film de comédie de l'Alpe d'Huez, signalons-le. Le film commence par une descente de flics dans la plus pure tradition du film noir. Mais dès qu'apparaît Isabelle Huppert, il est clair que nous avons affaire à une comédie déjantée. Huppert est interprète judiciaire franco-arabe, spécialisée dans les écoutes téléphoniques pour la brigade des stupes. Lors d'une enquête, elle découvre que l'un des trafiquants n'est autre que le fils de l'infirmière dévouée qui s'occupe de sa mère. Elle décide alors de le couvrir et se retrouve à la tête d'un immense trafic. Cette nouvelle venue dans le milieu du deal est surnommée par ses collègues policiers la daronne, ce qui veut dire, je vous rappelle, la mère en argot. Le scénario est bien ficelé, même si la ficelle est souvent attendue. Et le réalisateur nous entraîne des Galeries Lafayette à Barbès, chez Tati ou devant le cinéma Le Luxor. Isabelle Huppert est fascinante dès qu'elle soit en jean ou cachée derrière des lunettes noires ou encore en large voile comme sortant des mille et une nuits. Sa présence éclate en permanence, tout en étant dans un décalage tout aussi permanent. Le réalisateur met en valeur le rôle des femmes, alors que les hommes sont soit des flics balourds, soit des voyous pas très malins, et la daronne les mène avec autorité. Dès les premiers contacts avec les voyous, elle interroge. « Dites-moi tout de suite si vous êtes des crevards. » Les personnages féminins sont plus subtils. En premier lieu, la mère de l'héroïne qui perd la mémoire dans un EHPAD, mais reste pleine de joie de vivre. Nous avons aussi l'infirmière, une musulmane pétrie d'humanité, sa logeuse, une chinoise qui blanchit de l'argent et fait disparaître les cadavres. « Parler ne fait pas cuire le riz !» Telle semble être sa devise. Évidemment, il ne faut pas regarder de trop près certains rebondissements, par exemple qui aurait l'idée d'écouler sa cargaison de drogue sur le parking de la prison de Fleury-Mérogis. Nous sommes plutôt dans une forme de fantaisie immorale dans laquelle Isabelle Huppert, en djellaba stylée et foulard bigarré, donne une épaisseur qui permet au film de se hisser au-dessus de la moyenne des comédies françaises. Jean-Paul Salomé n'est ni Kiarostami ni Hong Sang-soo, à peine Romère, mais en ces temps perturbés, c'est bon de voir un tel film qui ne prend pas la tête.
Oui, enfin, un film détendant, diras-tu. Mais on va sans doute passer à un film qui est beaucoup moins, c'est Adolescente que Marie-Jeanne a vu, oui. Et qui est beaucoup moins drôle.
Oui, alors c'est un documentaire, et avec ce documentaire, Sébastien Lifshitz a réalisé une véritable prouesse technique. En effet, il a planté sa caméra pendant 5 ans, quelques jours par mois, auprès de 2 adolescentes de 2013 à 2018. Elles ont entre 13 et 18 ans. Alors, il a choisi une sous-préfecture de province, une ville neutre, tranquille, Brive-la-Gaillarde. Son but a été d'explorer la zone grise de l'adolescence, cette période de mutation profonde entre l'enfance et l'âge adulte, où les personnalités se forgent, où les choix et les chemins empruntés seront certainement déterminants pour toute une vie. Alors, il y a Anaïs et Emma. Anaïs et Emma n'ont a priori rien de commun, mais les affinités de la jeunesse, on le sait, sont souvent sans préjugés. Anaïs est rieuse, enjouée, remuante, plantureuse, affable. Elle appartient à un milieu social défavorisé. Sa mère est facilement déprimée et fait ce qu'elle peut, tant elle est engluée dans des problèmes de santé et de misère sociale. Tandis qu'Emma, elle, appartient au contraire à une moyenne bourgeoisie aisée. Elle est filiforme, ombrageuse, réservée, plutôt première de classe, tandis qu'Anaïs n'est pas très motivée par ses études. Mais elle partage, outre une révolte contre la famille et particulièrement contre la mère, et un caractère bien trempé, elle partage tous les bouleversements intimes de l'adolescence, les premiers émois, les premiers désirs, les premiers flirts, les premières amours. Premières ivresses, premières expériences sexuelles importantes, premiers chagrins d'amour et aussi, malheureusement, premières désillusions. C'est également le moment plein de doutes et d'incertitudes où il faut choisir une orientation professionnelle qui va engager l'avenir. C'est un portrait juste de la jeune France d'aujourd'hui qui entraîne le spectateur dans une histoire à la fois intime et collective. C'est vraiment magnifique, subtil, passionnant et j'ai trouvé lumineux.
Mais merci Marie-Jeanne, on va passer donc de l'adolescente française à une adolescente anglaise avec Rox. Alors Rox a une quinzaine d'années, elle est d'origine africaine et en surpoids assez net. On l'appelle Rox tellement elle sait se montrer dure quand on s'en prend à elle et à ce qu'elle aime. Elle a un petit frère, Emmanuel, 8 ans. Elle vit avec lui et avec leur mère dans un logement social à Londres, au cœur d'un quartier populaire à très forte mixité sociale. Elle fréquente une école pour filles et monnaie à la récré ses talents de maquilleuse. Frères et sœurs rentrent ensemble tous les soirs chez eux après leurs activités scolaires respectives. Mais voilà qu'un jour, en arrivant de leur appartement, ils le trouvent désert. Leur mère, connue pour son caractère instable, est en partie en leur laissant une lettre qui lui annonce son départ. C'est là le point de départ choc de Rox, un film de Sarah Gavron, réalisatrice britannique de 50 ans, dont on connaît notamment Les Suffragettes en 2015. Alors dans ce film-là, que vont devenir ces deux enfants livrés à eux-mêmes et recherchés par les services sociaux londoniens qui veulent assurer leur sécurité en les plaçant dans des familles d'accueil différentes? La fuite s'impose pour Rox, qui ne veut à aucun prix être séparé de son frère. Commence alors une vie faite de manque d'argent et d'errance quotidienne, Rox frappant aux portes des familles de ses amis du collège pour leur demander abri. On est dans un sujet âpre, bien dans la tradition des films sociaux britanniques. Mais le traitement qu'en fait Sarah Gavron est très différent de celui qu'aurait pu en faire un Ken Loach. Sans doute peu à peu la dure loi de la réalité finit par s'imposer. Toutefois, la façon tour à tour, joyeuse ou tragique, insouciante ou engagée, explosive ou sidérée, bruyante ou silencieuse, généreuse ou intéressée, avec laquelle la réalisatrice peint le milieu d'adolescente au Viroc et nous entraîne non sans humour dans la société multiculturelle de Londres, permet que se dégage de son film une vitalité lumineuse qui fait briller l'espoir dans la nuit de l'inévitable séparation finale entre le frère et la sœur.
Une triste histoire.
C'est une triste histoire, mais ce n'est pas du tout du Ken Loach. Ken Loach, c'est désespérant. Et là, c'est pas du tout désespérant. C'est au contraire lumineux. Et la dernière scène est formidable. Ça souffle sur la lumière, sur l'avenir. Quoi.
Oui.
Ouais. Je crois qu'est venu le temps de nous quitter sur Fréquence Protestante. Merci à Françoise, à Marie-Jeanne et à Jean Wilkowski qui ont animé cette émission. Merci à Arnaud qui en a assuré la réalisation technique et merci à ceux qui l'ont écouté et que nous invitons à nous rejoindre dans notre prochaine émission Chant contre Chant qui aura lieu le mardi 27 octobre de 13h15 à 14h.